sur cette question des outils à avoir en tête quand on lit les lettres. Il y a aussi tout autre aspect qui est en gros la façon dont les lettres rendent compte du travail de Gramsci. Hein. Et donc évidemment, ces lettres-là sont des lettres qui doivent être lues en lien étroit avec les cahiers, et notamment en lien étroit avec les cahiers, dès lors que on choisit de suivre au plus près la chronologie, hein, de l'écriture pour comprendre non pas tant leur structure, mais leur fonctionnement. Et alors, ce sont des lettres qui rendent compte du travail, mais qui rendent compte aussi d'un certain rapport avec des questions politiques que se posent les communistes, que les questions que c'est posé et a dû traiter et affronter Gramsci alors même qu'il était dirigeant actif du parti, et les questions qui se posent aussi au mouvement communiste international au moment même, hein, où Gramsci écrit et est en prison. Alors, ces lettres-là sont forcément écrites, donc, de façon aussi en partie cryptée, ou en tout cas en langage ésopique, hein, selon l'expression donc qu'utilise Tania dans une lettre qu'elle adresse à Piero Sraffa le 9 mars 1933. Dans cette lettre de mars 33, elle qualifie la lettre que Gramsci lui a envoyée donc peu de temps auparavant, donc le 27 février 33, hein, qui est la lettre donc 131 qu'on a évoquée déjà tout à l'heure dans l'anthologie. Elle qualifie cette lettre de capolavoro di lingua esopica. Alors, l'expression langue ésopique, en fait, est une expression qui était employée en Russie et qui était utilisée notamment depuis Pouchkine pour désigner la capacité à tromper la censure en présentant des messages politiques sous forme littéraire. De la même manière que les fables d'Ésope présentent des messages moraux ou éthico-politiques, pour employer une formule crotchienne et gramscienne, hein, sous les dehors d'un récit littéraire. Alors, l'idée là, c'est de rendre compte en particulier de la façon dont il présente ses programmes de travail, ou dont il parle de son travail. Sachant qu'il ne peut pas tout dire, et notamment la première lettre, hein, très célèbre du 19 mars 27, période où évidemment, il ne peut pas du tout encore écrire, hein, mais où il est arrivé, là, pour le coup, en prison, hein, en mars 27, il est à Milan, hein, donc c'est la lettre 13, hein, de l'anthologie, dans laquelle il énonce qu'il va falloir qu'il se mette à pouvoir travailler pour faire quelque chose für ewig en allemand. Pour toujours, pour l'éternité. Et voilà, donc là on va s'intéresser à cette lettre-là, et puis à une série de lettres liées à la question des intellectuels, qui est dans les premières années d'écriture, la question principale, hein, en tout cas celle qui l'indique comme étant la question principale autour de laquelle tourne tout son travail. Donc des lettres de qu'on va voir ensuite, hein, mais de 1930, 1931 et 1932. Alors, la lettre à Tania du 19 mars 1927, à partir de, donc au bout d'une page, hein, c'est le paragraphe qui commence par « La mia vita trascorre sempre ugualmente monotona ». Forcément, la pagination n'est pas la même, mais même le... D'accord. Ouais. Voilà, en bas. Et en fait, bah, c'est le passage qui nous intéresse et commence tout en haut de la page suivante. Hein. Sono assillato. Sono assillato, e questo fenomeno proprio dei carcerati, penso, da questa idea, che bisognerebbe fare qualcosa für ewig. Secondo una complessa concezione di Goethe, che ricordo aver tormentato molto il nostro Pascoli. Insomma, vorrei, secondo un piano prestabilito, occuparmi intensamente e sistematicamente di qualche soggetto che mi assorbisse e centralizzasse la mia vita interiore. Ho pensato a quattro soggetti finora, e già questo è un indice che non riesco a raccogliermi. E cioè, primo, una ricerca sulla formazione dello spirito pubblico in Italia nel secolo scorso. In altre parole, una ricerca sugli intellettuali italiani, le loro origini, i loro raggruppamenti secondo le correnti della cultura, i loro diversi modi di pensare, eccetera, eccetera. Argomento suggestivo in sommo grado, che io naturalmente potrei solo abbozzare nelle grandi linee, data l'assoluta impossibilità di avere a disposizione l'immensa mole di materiale che sarebbe necessario. Ricordi il rapidissimo e superficialissimo mio scritto sull'Italia meridionale e sull'importanza di Benedetto Croce? Ebbene, vorrei svolgere ampiamente la tesi che avevo allora abbozzato da un punto di vista disinteressato, furevi. Secondo, uno studio di linguistica comparata, niente meno. Ma che cosa potrebbe essere più disinteressato e furevi di ciò? Si tratterebbe naturalmente di trattare solo la parte metodologica e puramente teorica dell'argomento, che non è stata mai trattata completamente e sistematicamente dal nuovo punto di vista dei neolinguisti contro i neogrammatici. Ti farò ripilare, cara Tania, con questa mia lettera. Uno dei maggiori rimorsi intellettuali della mia vita è il dolore profondo che ho procurato al mio buon professore Bartoli dell'Università di Torino, il quale era persuaso essere io l'arcangelo destinato a profligare definitivamente i neogrammatici, poiché egli, della stessa generazione, legato da milioni di figli accademici a questa geldra di infamissimi uomini, non voleva andare nelle sue enunciazioni, oltre un certo limite fissato dalle convenienze e dalla deferenza ai vecchi monumenti funerari dell'erudizione. Terzo, uno studio sul teatro di Pirandello e sulla trasformazione del gusto teatrale italiano che il Pirandello ha rappresentato e ha contribuito a determinare. Sai che io, molto prima di Adriano Tilghe, ho scoperto e ho contribuito a popolarizzare il teatro di Pirandello. Ho scritto sul Pirandello dal 1915 al 1920, tanto da mettere insieme un volumetto di 200 pagine, e allora le mie affermazioni erano originali e senza esempio. Il Pirandello era o sopportato amabilmente o apertamente deriso. Quarto, un saggio sui romanzi di appendice, il gusto popolare in letteratura. L'idea mi è venuta leggendo la notizia della morte di Serafino Renzi, capocomico di una compagnia di drammi da arena, riflesso teatrale dei romanzi d'appendice, e ricordando quanto io mi sia divertito le volte che sono andato ad ascoltarlo, perché la rappresentazione era doppia: l'ansia, le passioni scatenate, l'intervento del pubblico popolare non era certo la rappresentazione meno interessante. Che te ne pare di tutto ciò? In fondo, a chi bene osservi, tra questi quattro argomenti esiste omogeneità. Lo spirito popolare creativo, nelle sue diverse fasi e gradi di sviluppo, è alla base di essi in misura uguale. Bon, alors, c'est une lettre richissime, hein, et qui est très, très fréquemment citée, vous avez dû le voir, hein, par la critique, dans différents directions, hein. Mais voilà, la question évidemment est tout particulièrement d'expliquer ce que signifie ce travail qui serait désintéressé pour toujours, etc. Et là, vous avez, alors, parmi les commentateurs les plus récents et les plus convaincants de cette lettre, hein, vous renvoyez donc notamment au volume Vita e pensieri di Antonio Gramsci, donc de Vacca, hein, donc page 707-709, et à l'introduction, alors qui est encore pour l'instant du moins un peu difficile à trouver, de Cospito et Frosini au premier volume des Quaderni Miscellanei dans l'édition nationale, dans la nouvelle édition critique. Alors, il faut d'abord préciser l'allusion à Pascoli et à Goethe, qui est quand même assez crypté, là. Per sempre, c'est... Ah bah, vas-y, lis. Ah bah, tu vas lire en allemand, tiens.
Non, mais j'ai une traduction. J'ai une traduction.
Je lis Goethe. Ah bah oui, c'est Ali.
J'ai pas envoyé. Oui, c'est là, j'ai demandé à une collègue de me traduire, donc... Donc ça s'appelle Fur, car la part de bonheur noble que l'homme, c'est un poème d'amour qu'il a écrit inspiré par l'amour pour Charlotte von Stein, hein, voilà, une éducatrice au sens du classicisme allemand, me dit la collègue. Voilà. Et le texte, c'est un poème d'amour, mais qui dit le moment, hein, alors que le Per sempre de Pascoli dit l'éternité. Hein, il y en a un qui est inséré dans l'histoire, la réalisation d'un moment de bonheur, voilà, qui va durer dans les têtes, hein. Je pense que c'est ça qu'il a en tête, alors que le Per sempre de Pascoli se termine par l'image de la mort, c'est moins rigolo, et d'une espèce de truc intemporel et non historique. Donc je vous lis quand même la traduction.
Il est père toujours, pour toujours, parce qu'il est unique, un moment unique dans l'histoire, quoi.
Le Furewig, ouais, c'est un moment unique, ouais, dans l'histoire. Ouais. Voilà, c'est un moment, cette part de bonheur, hein, que l'homme dans ses bandes terrestres appelle de nom divin, l'harmonie de la fidélité qui ne connaît nul fléchissement, de l'amitié qui ne connaît pas le souci du doute, la lumière qui ne brûle pour les sages que pour des pensées solitaires et pour les poètes que dans des belles images, tout cela, dans mes heures les meilleures, je l'avais découvert en elle et je l'avais trouvé pour moi. C'est-à-dire, voilà, un moment spécifique, historiquement déterminé, pour prendre un langage gramscien, mais qui se répercute sur, sur la durée, hein, sur l'éternité, mais qui est un moment historiquement déterminé. Alors, le per sempre de Pascoli, c'est le même titre, mais en italien, per sempre, hein, qui se termine, je vous lis.
Dans les Canti di Castelvecchio.
Ouais, c'est ça, Canti di Castelvecchio. Et ça dit, ça se termine comme ça. Donc, il voit la petite fille qui est, voilà, à qui il demande risposi. Sei bimba e non sai per sempre che voglia dire mai, rispose. Non so che vuol dire. Per sempre vuol dire morire. Sì, addormentarsi la sera, restare così come sera per sempre. No? Donc, le per sempre pascolien est un peu différent du per sempre, du für ewig goethien, hein, évidemment. Il pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est qu'en faisant ça, je veux dire, il passe que l'idiote, etc., la le censeur va un peu se gratter la tête pour se demander de quoi il parle. Donc il y a aussi ce... Parce qu'il est encore... À un moment même, il va le garder longtemps, hein, lo spiritello ironico, lo spiritello sarcastico, etc. Lo spirito ironico che mi accompagne, il l'a quand même toujours, hein, parce que dans les... Au moment même où il est dans cette crise, etc., il y a une lettre dans laquelle il écrit que io sono un sardo senza complicazioni psicologiche. Almeno lo ero. Hein, que juste au moment où il est dans cette crise terrible, avec ces phrases terribles qu'il dit et qu'il écrit, hein, et en même temps, il reste l'esprit sarcastique qu'il hérite de Marx. Hein, le sarcasme passionné.
Donc voilà. Non, mais c'est ça. Non, c'est... Alors, là encore, hein, selon l'expression qu'on se la crée, il y a des fleuves d'encre sur ce passage pour donner plein d'interprétations à ce que veut dire per sempre. Et on fait dire des choses qui peuvent être tout à fait opposées. À commencer par celle qui consiste à dire, donc, bon, au-delà de calmer la censure, dire, ce que je vais écrire, laissez-moi l'écrire, surtout laissez-moi la possibilité d'écrire, parce que là il est à un moment où il n'a pas la possibilité d'écrire ses cahiers encore, hein. On est bien avant, hein. Je vais écrire quelque chose per sempre, et les deux références que je fais, c'est à deux poèmes à de la poésie amoureuse, quoi. Voilà. Il y aurait l'idée aussi de certains disent, il dit ça précisément parce que ce qu'il veut faire, c'est pas écrire per sempre, mais c'est écrire pour l'instant, pour le moment, de pouvoir par l'écriture en gros continuer l'action politique, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce qu'il dirait. Bon, ce qui est en tout cas ce qui semble quand même assez évident et qui apparaît dans le fait que juste après avoir dit ça, il fait référence au texte sur la question méridionale, hein, le problème méridional. C'est dire, bon, je veux continuer ce travail que j'avais commencé avant, qui était déjà un travail, c'est quand même son texte, le texte qu'il écrivait sur la question méridionale, juste avant d'être arrêté, c'était un texte long, un des plus longs qu'il ait jamais écrit, ambitieux, et qui se présentait très clairement comme un premier pas vers un travail de plus longue haleine, en particulier sur la question des intellectuels, question à travers laquelle il fallait forcément passer pour penser l'hégémonie, la construction possible d'une hégémonie alliant les ouvriers, les paysans et les intellectuels en Italie, et qui permettrait de changer les rapports de force. Bon. Donc là, ce qu'il dit, c'est que ce travail-là, il veut clairement le poursuivre avec peut-être sans doute la volonté de mener un travail d'élucidation sur les raisons qui ont provoqué une défaite décisive des forces révolutionnaires en Italie, en tout cas, et largement aussi en Europe. Voilà. Alors, il se trouve que cette annonce date de mars, donc 27, sera effectivement largement reprise dans toute une première période d'écriture des cahiers à partir de 29-30, et notamment donc précisément toute cette enquête sur l'histoire des intellectuels italiens, entreprise dans les cahiers donc surtout 1, 3, 4 et 5, qui seront des notes dont une partie sera reprise donc dans le cahier 12, hein, le cahier sur les intellectuels donc, que vous avez au programme donc, en 32. Il n'est pas impossible aussi que la référence, l'allusion très précise qui est faite au texte sur donc les Nantes et sous le problème méridional soit un message d'accord préalable ou voire d'incitation, on ne sait pas, hein, à une publication de ce texte hein, par ses camarades, qui le feront d'ailleurs, hein, donc, peu de temps avant, ils travailleront en 29, ça paraîtra en janvier 1930, hein, donc, sous le titre donc, Alcuni temi della questione meridionale, dans la revue Lo Stato Operaio, qui est la revue du Piccidi. Voilà. Et alors, les autres thèmes annoncés sont aussi du plus grand intérêt, puisque celui donc, qui concerne la linguistique comparée hein, bien reprend. Sa vraie sa formation universitaire à lui, hein, sa formation de chercheur, non accompli, mais néanmoins extrêmement sérieuse, et il ne manque pas de le rappeler, hein, en reparlant de Bartoli, qui en avait fait vraiment son disciple favori, hein, et aux travaux qu'il avait déjà commencé à mener à ce moment-là et qu'il voudrait reprendre. Alors, il ne va pas les reprendre de façon systématique dans les cahiers, mais la question de la langue, l'importance de la linguistique historique et de la philologie va rester présente jusqu'au bout, et alors vraiment jusqu'au bout, puisque le tout dernier cahier, j'ai fait allusion tout à l'heure, est le cahier 29, rédigé ex novo donc au printemps 35. Est consacré à ces questions. Il est très court, il est avorté, évidemment, comme l'ensemble de ses travaux, et celui-là tout particulièrement, puisqu'il est si tardif. Mais il faut bien avoir en tête aussi que parmi ses programmes de traduction, parmi les premières choses qu'il traduit, hein, pour me faire la main, je vais commencer par traduire avant d'écrire. Donc, il commence à, hein, c'est important de traduire. Continuer toujours traduire. C'est en traduisant qu'il va d'une certaine manière aussi accoucher de sa pensée. Enfin, en tout cas, ça va l'aider. Donc, il traduit notamment le volume de donc à partir de juin 29 de Finck, hein, du linguiste Franz Nikolaus Finck, intitulé donc dans sa traduction italienne par Gramsci, Les familles linguistiques del mondo, hein, dans les cahiers donc dits B et C, deux des différents cahiers de traduction. Et c'est important aussi de garder en tête que les deux autres thèmes qu'il annonce, donc sur la transformation du goût théâtral et sur la littérature populaire, sont alors en réalité tout à fait liés à la question principale, à la première, qui est la question des intellectuels, puisque au cœur de ces deux questions-là, il y a le rapport entre les lettrés, les intellectuels et le peuple, les goûts populaires, quoi. Hein. Et le rapport entre la littérature d'une part et plus largement les modes d'expression lettrés et les consciences populaires, les consciences des masses, etc. Vous savez, c'est tout à fait au centre de toute sa recherche. Et ça, c'est des choses qui se retrouvent aussi dans deux cahiers que vous connaissez bien, qui sont les cahiers 21 et 23, hein, consacrés à la littérature populaire et à la critique littéraire. Voilà, donc ça c'est une première lettre importante sur qui est le premier, en gros, le premier programme de travail. Une autre lettre, alors nettement plus tard, une fois que le travail d'écriture des cahiers est bien avancé, bien entamé. C'est la lettre donc à Tagne du 17 novembre 1930, ce qui est la numéro 68. Hein, numéro 68 dans l'anthologie Spliane. Alors, novembre 1930, il faut le signaler, hein, c'est un moment de... non seulement il a déjà bien avancé le travail, mais c'est une période extrêmement intense, hein, de production, d'écriture. Octobre, novembre 1930, c'est le moment où il finit... il finit la plus grande partie du cahier 4. En gros, il vient de terminer la première série des Appunti di Filosofia, hein, Appunti di Filosofia 1. Donc, une des parties du cahier 4 et la partie plus miscellanea de notes variées du cahier 4. Et c'est le moment où il commence le cahier 5, le cahier 6, le cahier 7. Hein, notamment donc la deuxième série des Appunti di Filosofia, je vous dis parce que c'est beaucoup de notes qu'on va retrouver ensuite, hein, dans les cahiers spéciaux, le cahier 6 qui est le cahier, qui avant le cahier 13 est le cahier le plus politique au sens strict, c'est-à-dire celui qui pose vraiment, qui interroge au plus près les notions d'État, d'hégémonie, de société civile, etc. etc. Alors, on lit... on a le temps, et puis on lit celle-là, et on essaye de faire celle... tu fais celle-ci à... tu veux lire, hein?
Si tu veux.
Tu veux les lire, celles-là ?
Oh, ouais, j'aime bien lire.
Allez, lis. Non, on aime bien quand c'est toi qui lis. C'est bon que c'est toi qui lis.
Ouais. Non, mais... ouais, c'est ça. Après, j'ai retrouvé la lettre dont on parlait tout à l'heure. Que je vois dans la lettre.
Enfin, je voulais la donner. Que tu auras coupé.
Hein ?
Sinon, on ne comprendra rien.
Oui. On fera une... Donc, non, mais je vais pas la lire, la lettre à Julia. Je vais juste donner la référence. Et vous, j'espère qu'elle est dans les... J'espère qu'elle est dans celle-là. C'est la lettre du Dirizzone, où il explique tra questi condannatori c'è stata anche Julca. credo, anzi sono fermamente persuaso, inconsciamente, e c'è una serie di altre persone meno inconsce. Et donc c'est la lettre du 27 février 1933. Non, donc vous la regarderez, mais qui est vraiment très différente dans la tonalité et dans la question que celle sur la séparation éventuelle. Vous savez que Tania, évidemment, on ne verra pas la lettre. Voilà. Alors, lettre à Tania, 17 novembre 1930, sur la question des intellectuels. Ho ricevuto la cartolina il 10 novembre e la lettera il 13. Cercherò di rispondere in ordine alle tue questioni. Per adesso non devi mandarmi dei libri, quelli che hai, tienili da parte. E aspetta che io ti avverta di spedirli. Voglio prima sgomberare tutte le vecchie riviste che da 4 anni ho accumulato. Prima di spedirle, le rivedo per prendere le note sugli argomenti che più mi interessano. E naturalmente ciò mi toglie una buona parte della giornata, perché le note di erudizione sono accompagnate da richiami, da commenti, eccetera. Mi sono fissato su 3 o 4 argomenti principali, uno dei quali è quello della funzione cosmopolita che hanno avuto gli intellettuali italiani fino al Settecento, che poi si scinde in tante sezioni, il Rinascimento, i Machiavelli, eccetera. Se avessi la possibilità di consultare il materiale necessario, credo che ci sarebbe da fare un libro veramente interessante e che ancora non esiste. Dico libro per dire solo introduzione a un certo numero di lavori monografici, perché la questione si presenta diversamente nelle diverse epoche e secondo me bisognerebbe risalire ai tempi dell'Impero Romano. Intanto scrivo delle note, anche perché la lettura del relativamente poco che ho mi fa ricordare le vecchie letture del passato. Donc voilà, donc vous savez, il fait le recensement de, en particulier, il y a un cahier qui lui sert à ça. Je ne sais pas celui qui est à lire en premier, c'est le cahier 2. Vous savez qu'il y a des notes comme ça, c'est des notes de lecture. Quand il dépouille les revues, quand on lit ça à la suite, c'est quand même pas. Voilà. Alors, vous savez qu'il va rester donc sur cette question des intellectuels. Il va y revenir. Hein, il va y revenir un an après, hein, un peu moins d'un an après, en août 1931, où là il va expliquer davantage, etc. Alors, notez bien une chose, c'est que cette lettre-là, où il fait un plan de travail pour les intellectuels, sur les intellectuels, où il fait vraiment un programme de travail, commence par la phrase suivante: si può dire che ormai non ho più un vero programma di studi e di lavoro. Hein? Évidemment, et après, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il explique toutes les choses qu'il va travailler sur les intellectuels. Donc on va la laisser de côté, vous la lirez. Hein,
c'est la 80, est, voilà, la numéro 80.
Elle y est. Hein,
enfin, 3 août 1931.
Donc il explique tout ce qu'il a en tête. Effectivement, bisogna risalire all'impero romano, etc. L'organizzazione chiericale cristiano-papale, etc., etc., etc. Bon, donc pour un qui n'a pas de programme de travail, c'est pas mal. Alors,
il précise. Mais c'est vrai que c'est un moment où, ouais, en gros, tous les grands, les principaux concepts sont en place, quoi. Hein? Et il dit surtout, j'ai ce que je peux faire en prison. Ouais. Ce qui m'est possible de faire en prison, vu les conditions de travail qui sont celles de la prison, je l'ai fait. Maintenant, il faudra que je sois dans des grandes bibliothèques pour pouvoir aller plus loin. Hein. Et effectivement, là, donc les concepts d'hégémonie, les concepts, quand il dit il desiderio di approfondire il concetto di stato, effectivement, c'est quelques mois après avoir vraiment repensé complètement la question de l'État, sur la question de l'État élargie, qui est hégémonie, cuirassée de coercition, qui est à la fois société civile et société politique, etc. Toutes ces choses-là, elles ont été pensées. Le fait de repenser entièrement le matérialisme historique sous la forme de la philosophie de la praxis, pareil. Hein, c'est, voilà, et ça va être le... Il va y avoir quelques mois là qui vont donner lieu au basculement avec une autre étape de travail qui n'est pas la seule, parce qu'il continue à écrire des notes nouvelles aussi, mais qui va être principalement organisée autour de l'idée de des cahiers spéciaux où on reprend le travail déjà fait et on essaie de lui donner un, de lui donner une cohérence, si ce n'est une cohérence, en tout cas de le regrouper, de regrouper, quoi, regrouper en fonction de questions thématiques.
On s'arrête comme ça peut-être. Parce que sinon j'explique le cahier 8, mais ça peut être un peu long.
Bref, non. Bah non, mais on a bon, un carnet. Ouais, je pense qu'il faut, mais si tu veux, je.
Non, je vais le faire. Ouais. Comme, alors, toujours dans cette lettre-là, il dit exactement ce que vient de commenter Romain. Come vedi, questo argomento potrebbe dar luogo a tutta una serie di saggi, donc la question des intellectuels. Ma perciò è necessaria tutta una ricerca erudita, così avviene per altre ricerche. Bisogna anche tener conto che l'abito di severa disciplina filologica acquistato durante gli studi universitari mi ha dato una eccessiva forse provvista di scrupoli metodici. No, voilà. Alors, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que juste après la première lettre, hein, celle qu'on a lue au début du 17 novembre 1930, il a l'hypothèse, hein, il a l'hypothèse d'écrire un cahier sur les intellectuels. Donc il commence un cahier, auquel il donne pour titre général Note sparse e appunti per una storia degli intellettuali italiani, qui est suivi immédiatement par un avertissement en 5 points et par un sommaire qui prévoit des saggi principali. Donc voilà, l'avertissement est le suivant. Hein, et l'avertissement, là je suis en particulier les commentaires de Cospito et Frosini dans leur édition des Michelani. L'avertissement qui ouvre ce cahier qu'on appelle 8, parce que c'est le cahier 8 dans l'ordre donné par Gerattan. Hein. Voilà ce qu'il dit. Et elle tend à indiquer qu'il entend bien s'adresser à des lecteurs réels, avec l'idée que peut-être, là, il est dans l'hypothèse d'écrire au moins un prospetto di alcune pagine. Hein, il dit 50, les autres lui disent, allez, tu nous envoies les 50 pages, etc. Au moins 10. Et en fait, voilà, il ne va pas le rédiger, ce qu'il y a. Hein, il reprendra plus tardivement, au moment des speciali, il reprendra une partie de ses notes sur les intellectuels dans le cahier 12, bon, on en parlera en son temps, hein, mais là, il a l'hypothèse que peut-être, hein, peut-être, il l'écrit lui-même. Hein, un peu plus tard, il écrit une lettre à Tagna, « Se avrò voglia, e me lo permetteranno le superiori autorità, farò un prospetto della materia. » L'expression est de lui, même si après elle est reprise par Zraff qui dit à Tagna, dis-lui d'écrire, hein, farò un prospetto alla materia che dovrà essere di non meno di 50 pagine e te lo invierò. Donc, sans, pas de certitude absolue, mais quand il commence ce cahier, il lui donne le titre, il commence par l'avertissement suivant. Carattere provvisorio di promemoria di tali noti e appunti, da essi potranno risultare dei saggi indipendenti, non un lavoro organico d'insieme. Non può esserci ancora una distinzione tra la parte principale e quelle secondarie dell'esposizione, tra ciò che sarebbe il testo e ciò che dovrebbero essere le note. Si tratta spesso di affermazioni non controllate, che potrebbero dirsi di prima approssimazione. Qualcuna di esse nelle ulteriori ricerche potrebbe essere abbandonata e magari l'affermazione opposta potrebbe dimostrarsi quella esatta. Dernière remarque, non deve fare una cattiva impressione la vastità e l'incertezza dei limiti del tema per le cose sopra dette. Non ho affatto l'intenzione di compilare uno zibaldone farraginoso sugli intellettuali, una compilazione enciclopedica che voglia colmare tutte le lacune possibili e immaginabili. Il peut l'écrire pour lui, ça. Mais enfin, bon, il sait. S'il écrit, c'est que probablement, il a en tête des gens qui pourraient lire ça. Hein, et à qui il dit mode d'emploi. Je travaille avec ce que les modalités qui sont les miennes. J'ai pas les moyens de vérifier tout parce qu'il faudrait les grandes bibliothèques auxquelles j'étais habitué, un travail érudit, etc. Machin. Voilà. Et il fait suivre ça par une liste de ce qui pourrait être les saadji, hein, sur les intellectuels. Alors, il y aurait une introduzione generale, sviluppo degli intellettuali italiani fino al 1870, diversi periodi, la letteratura popolare, romanzi d'appendice, folklore e senso comune, la questione della lingua letteraria dei dialetti, i nipotini di padre Bresciani, riforme del Rinascimento, Machiavelli, la scuola e l'educazione nazionale, la posizione di Benedetto Croce nella cultura italiana fino alla guerra mondiale, il risorgimento del partito d'azione, Ugo Foscolo, nella formazione della retorica nazionale, il teatro italiano, storia dell'azione cattolica, cattolici integrali, gesuiti, modernisti, eccetera, eccetera, jusqu'à appendici, americanismo e fordismo, en passant par Machiavelli, l'assenza di giacobinismo del risorgimento, la scuola unica, eccetera. Voilà, donc un programme gigante, un énorme programme de travail, dont toute une partie va être effectivement le programme, en partie, pas tout, mais le programme qui va y avoir par la suite dans à partir du printemps 32 dans les Quaderni Speciali, dont il est intéressant de noter qu'effectivement ils reprennent toute une série de choses qu'il a en tête là, mais qui parallèlement sont, ils n'arrêtent pas pour autant le travail d'élaboration de choses nouvelles. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et Cos, plutôt, qui montre bien dans ses travaux que les spéciales, c'est très dur. Donc, il faut faire attention aux petites variations lexicales par rapport au texte de premier jet, etc. Mais qu'il n'a pas la force à ce moment-là de réécrire tout. Et donc, il y a ce qu'il appelle une espèce d'inertie, hein, dans l'écriture des deuxièmes versions. Mais parallèlement, il a trois cahiers qu'il garde jusqu'au bout, hein, qui s'écrivent jusqu'au moment où il peut continuer à écrire, c'est-à-dire en juin 35, qui sont les cahiers 14, 15 et 17, qui sont des cahiers Michel Lannes, qui poursuit une évolution, et où il y a souvent, on voit, et ça Cospito le met bien en évidence, on voit des intuitions nouvelles qui apparaissent, hein, parallèlement à la mise en ordre. Alors, très probablement, la mise en ordre des spéciales, c'est une réponse à... il faudrait quand même que tu nous donnes des trucs un peu cohérents, etc. Il y a une insistance assez forte, hein, de Zraff. Et Zraff a dit clairement, hein, l'ami copiémontaise a vu ton truc, il t'envoie non seulement ses salutations, mais il a retrouvé un article de toi, il te l'envoie... Il check quand il raise à propos des trucs sur la Divine Comédie, etc. Donc il sait que c'est pas seulement l'avocato Piero, hein, qui est pas avocat mais qui s'occupe de ses affaires, hein, tellement bien que quand il dit dans cette lettre là que je vous citais tout à l'heure, il grande di Rizzone, il dit à Tania, excuse-moi si je mets Piero avant toi, mais voilà. Et en même temps, hein, voilà, il y a cette... On l'a déjà dit, mais ça vaut quand même la peine d'insister sur le fait qu'il sait bien que derrière Pierre, il y a Toliat, il y a le parti. Et donc, il est dans cet questionnement. Alors,
je t'arrête juste pour préciser une chose, pour bien comprendre de quoi on parle, enfin, de quel, dans le texte, de quelle page cela concerne. C'est... donc dans l'édition de Geratana, c'est la page 935. C'est page 935-936. Quelqu'un là, non, vous avez pas les volumes là avec vous.
Non mais
c'est pas grave. Non mais c'est pas grave. Mais simplement, vous avez le problème de l'édition de Geratana par rapport à ça, et ça c'est une des choses démontré par Franchoni et qui change donc avec la nouvelle édition, c'est que tout ce que Jean-Claude vient de lire là à l'instant, donc est écrit en novembre 1930 sur la première page du cahier 8 qui reste après vide pendant un an, hein, et qui va reprendre parce que justement, il fait pas ce qu'on lui demande, ce cahier sur les intellectuels. Hein, donc il écrit le mode d'emploi au départ en disant voilà tout ce que, et puis en fait il le fait pas parce qu'il y a très probablement il n'y arrive pas, ou ça n'est, c'est justement ce qu'il dit quand non c'est voilà, je n'y arrive pas, c'est pas possible comme ça, et ce qui l'empêche pas de continuer évidemment de travailler, d'avancer le travail aussi sur les intellectuels, mais il est pas prêt à donner quelque chose qui serait une synthèse qu'on puisse livrer à l'extérieur et qui en plus serait très probablement publié. Voilà. Donc, alors simplement dans l'édition de Gerhard Tann ne s'était pas rendu compte de ce, pour se rendre compte de ça, il fallait tout le travail philologique fait pendant des années par Gianni Fanchoni. Cette page-là, elle est suivie. Donc, c'est les pages 935 et 936 de l'édition de Gerhard Tann. Qui à la page 936 donc termine la liste hein, des sujets principaux, des saggi, des essais principaux, et puis il fait suivre juste après par autre chose qui s'appelle Raggruppamenti di materia. Hein, et sur la page donc 936 de l'édition de Gerhard Tann, qui est la vôtre, vous allez avoir les deux. Et alors il s'agit dans le cahier de la feuille suivante en réalité. Il s'agit de la feuille suivante, mais la feuille suivante qui est écrite, pour le coup, en mars-avril 1932. Donc, en gros, un an et demi plus tard. Hein? Donc, voilà, c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire que ça fait d'ailleurs deux programmes d'organisation du travail qui sont tout à fait différentes. La première, d'ailleurs, étant un travail en cours et encore à faire, alors que les Raggruppamenti di materia qui sont ensuite, qui datent de mars-avril 1932, c'est l'état des lieux de ce qui a été déjà conçu par Gramsci dans l'organisation de ces speciali. D'où le fait que cet état des lieux, il commence par les intellectuels et les questions scolaires, il tutoie les questions scolastiques avec le cahier 12. Ensuite, Machiavel lit quel cahier 13. Ensuite, Nozioni enciclopediche argomenti di cultura, quel cahier 16. Hein? Ensuite, Introduction à la studio della filosofia e note critiche del saggio popolare e sociologia, quel cahier 11. Donc, tous les cahiers que vous avez au programme. Hein? Et puis, quelques autres que... Per fortuna. Voilà, enfin, certains y sont quand même, hein, littérature populaire, etc. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est important de le savoir, pour s'orienter dans...
Il a fait exprès différents... voilà. De mettre là, ouais, pour voir si quelqu'un ça comprendrait que c'est deux ans après. Voilà. Non, il n'a pas fait exprès, mais il avait une page vide, voilà, donc il a écrit. Alors, simplement là-dessus, donc, ce cahier 8, il reste avec son titre. Le titre, voilà. Il y a une insistance très grande, bon, je ne rentre pas dans les détails des lettres de Tatiana qui reprend, mais il y en a une qui est délicieuse parce que c'est dit très clairement qu'elle en a parlé avec Zlaff, et que Zlaff a dit ça. Donc une lettre du 28 août 31, je sais pas, elle n'y est pas, c'est une lettre de Tania. Riguardo ai tuoi studi e dall'abbandono del programma che ti eri fatto, certo, per fare una storia perfetta degli intellettuali si deve avere a propria disposizione una grande biblioteca, ma perché non farla imperfetta per il momento, salvo poi perfezionarla quando avrai la libertà ad accesso alle biblioteche? Una volta tu rimproveravi sempre a Piero l'eccesso di scrupoli scientifici che gli impedivano di scrivere qualunque cosa. Pare che egli non sia mai guarito di questa malattia, ma è possibile che a te 10 anni di giornalismo non ti abbiano curato? Quand on a la lettre de Zraff, a dit exactement ça, elle le répète et lui dit. Mais malgré cette. Hein, elle va revenir sur l'idée. Alors, tu te rappelles que tu nous avais dit que tu ferais un prospetto della materia, voilà. Ti devo ricordare che ora che hai mandato lo schema del tuo lavoro su Farinata dovresti metterti a scrivere lo schema non meno di 50 pagine, hein? Lui rappelle qu'il l'a dit, il l'a écrit, non meno di 50 pagine, c'è un point d'exclamation, della tua storia degli intellettuali italiani, e là il cite ce che lui ha di Sraf, e se 50 pagine sono troppe, comincia a mandare una prima puntata di 10 pagine. Il le fait pas, le cahier, lui, reste avec ce titre, et quand on prend le cahier, note e appunti sparsi per una storia intellettuale, puis il n'y a rien sur les intellectuels, parce que, en fait, voilà, il bloque sur toute une série de points, en particulier, en tout cas, la raison qu'il donne, c'est son excès de scrupules philologiques, hein, ça, c'est vraiment Mais, à partir du printemps 32, il va rédiger les cahiers spéciaux où il va commencer, parce qu'il pense qu'il sent là, c'est en plus un moment où il va pas bien, etc. Mais donc l'idée que, malgré tout ce qu'il a mis là, lo Zibaldone et Faraginoso, c'est bien ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc essayer de mettre de l'ordre là-dedans pour que ça soit pas ça, mais que ça soit quelque chose qui ressemble à une organisation. Une organisation par matière, raggruppamenti di materia. Donc tout ça pour simplement commenter le fait que vous voyez ce lien intérieur, enfin, la prison avec les demandes de ses correspondants, malgré les difficultés, etc. Il reste et il explique cette tentative de mettre en ordre, toute la masse de réflexions qu'il a accumulées jusque-là, tout en continuant à tracer des voies très intéressantes dans les derniers cahiers Michel Lannes, qui lui servent à penser des choses non encore pensées. Et le dernier cahier, c'est-à-dire qu'il y a plein de notes ex novo à partir de 32, il y en a beaucoup qui sont des réécritures, mais le travail continue. Voilà, donc pour la question, ce qu'on peut vous dire sur les lettres. Après, c'est à vous de vous faire des parcours dedans, avec l'idée que, malgré tout, là, vous savez que c'est une anthologie, mais vous avez le texte complet, donc vous pouvez essayer de suivre des thématiques, par exemple la série de lettres sur Crouch, qui sont, donc là on a suivi celle sur les intellectuels, par exemple la série des lettres sur Crouch d'avril à juin 1932, qui là aussi sont des lettres écrites à la demande express de Tagne et de Sraf, qui lui disent ça serait bien que tu puisses faire une,
puisque tu nous envoies rien sur les intellectuels, envoie-nous quelque truc, chose, fais-nous une grosse recension de la Storia des Europe à de Crouch.
Et ça, là aussi, c'est bloqué parce que, enfin, il le fait quand même là. Il y a vraiment une série de lettres importantes entre avril et juin, avec vraiment des développements, dont certaines sur l'hégémonie, qui sont extrêmement intéressantes. Donc, qu'il faut lire un peu thématiquement. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces, voilà, ces lignes d'interprétation possibles, des grilles de lecture sur sa propre difficulté, cette idée-là, l'homme de la cinquième année n'est plus homme de la première. Les liens entre lui et sa famille, et en particulier avec Jules, les liens avec le parti, mais qui passe aussi par des liens avec des gens en lesquels il a confiance et il garde confiance, même dans les moments les plus difficiles. C'est quand même vraiment très 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 fort, ces lettres-là. Et puis, il y a toute une série d'autres choses que vous avez vues au fur et à mesure. Son goût pour les récits, son goût pour les fables, son goût pour les récits d'enfance, la Sardaigne qui revient, etc. Donc là, c'est comme si vous aviez un texte littéraire normal, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas à faire les lettres sur je sais pas quoi, les petits porcs épiques qui vont récupérer les pommes en se roulant dessus, ils partent avec les pommes, bon voilà, ça c'est de la littérature, point. Non per niente, il y a eu une édition des fables de Libertà qui a été faite avec les textes de Grimm qu'il a traduit, mais aussi ces textes dont on peut dire qu'elles sont des, dans sa propre inventivité littéraire. Il voulait d'ailleurs faire sortir les fables de Grimm pour ses petits neveux en Sardaigne.